dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Aujourd'hui, nous allons parler avec Elsa Dauphin de son dernier roman, La Compagnie des Vaches, édité par les éditions du Larzac. Compagnie, Vaches, Larzac, tout prête à croire ou tout pourrait prêter à croire que l'on va parler de CRS, de légionnaires ou de militants cossonards. Eh bien non, pas tout à fait, même si ce dernier livre d'Elsa Dauphin est qualifié par Patrick Herman dans Le Monde diplomatique d'octobre 2017 d'hommage à la dissidence. L'arrivée de ce livre est vraiment inespérée, il tombe vraiment à pic. Juste au moment où le MEDEF réfléchit à un contrôle quotidien des chômeurs, les suspectant d'être des fraudeurs, des resquilleurs. Et oui, le MEDEF cherche à appliquer le précepte d'Alphonse Allais qui disait « Prenons l'argent aux pauvres, ils en ont très très peu, il est vrai, mais ils sont extrêmement nombreux. » La Compagnie des Vaches, un roman futuriste qui fait écho à notre quotidien d'aujourd'hui.
Dans cette nouvelle émission de Dissonance, il sera question de soumission, d'humiliation, mais aussi d'humanisme et de résistance. Ils seront évoqués le lent mécanisme de la Renaissance à la rébellion, l'éveil des consciences tout en poésie et tendresse, finement ciselé par les mots et l'écriture d'Elsa Dauphin. Une heure à passer avec Elsa Dauphin, mais aussi avec Michel Julia, dont les peintures accompagnent les mots d'Elsa et composent avec ce récit un magnifique roman visuel.
Mais avant de les entendre, je voudrais commencer l'émission par l'évocation de Daniel Wiglietti, un chanteur uruguayen qui vient de s'éteindre le 30 octobre 2017 dans son pays. Auteur, compositeur, excellent guitariste et chanteur engagé, sa chanson avait une forte racine libertaire qui l'amena à accompagner de nombreux mouvements révolutionnaires, jusqu'aux zapatistes mexicains des années 1990. Il était un compagnon infatigable des maires de la Place de Mai, à qui il consacra la chanson « Otra voz canta » sur des vers de la poétesse Circe Maya. « Juste derrière ma voix, écoute, écoute, une autre voix chante. » Daniel Biglietti, Otra voz canta.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Dissonance
avec
Elsa Dauphin
sur Radio Centrafrique. La Compagnie des Vaches, un second roman d'Elsa Dauphin qui mêle plusieurs regards, ceux d'une sans travail, ceux d'une représentante zélée de l'oppression économique, ceux d'hommes et de femmes attachés à leur terre, à la vie, et aussi les regards de Zen, d'Ombrelle, de Blanchette et d'Arthur le Taureau. Elsa Dauphin, que nous avions déjà interviewée en avril 2016 pour son premier roman, revient cette fois pour nous parler de son amour de l'espace libéré. Amour qu'elle magnifie avec sa remarquable écriture, aux senteurs poétiques et réalistes à la fois.
Bonjour Elsa.
Bonjour Joseph.
On se retrouve donc pour la présentation à Radio Sainte-Afrique, aux auditeurs de Radio Sainte-Afrique, de ton second livre qui s'intitule « La compagnie des vaches ». C'est ton deuxième roman que tu viens de publier. Est-ce que tu peux nous en dire le point de départ ?
Le point de départ, ce sont les vaches. Non, l'idée même du roman, si tu veux, elle est venue quand il y a longtemps de ça, je faisais une randonnée dans les Pyrénées et j'ai traversé un pré où il y avait des vaches qui regardaient tous ces randonneurs défiler. Et leur proximité m'a fait prendre conscience de leur beauté, de leur puissance. Ça faisait longtemps que je n'avais pas côtoyé de vaches d'aussi près. Et je me suis demandé comment elles ressentaient notre présence, ce que nous étions pour elles, comment elles nous percevaient, ce qu'elles savaient de nous. Et le titre du livre est venu là, à ce moment-là, La compagnie des vaches. Et je me suis dit à ce moment-là que j'allais écrire un livre autour des vaches, sans savoir du tout la teneur même du roman. Voilà, et il m'a fallu à peu près 5 ans pour écrire ce livre.
Donc à t'entendre, on pense que le personnage principal, ce sont les vaches.
Disons que ça... J'aime pas trop, moi, l'idée du personnage principal. Oui, elles sont capitales dedans, mais comme Isabelle Prieur, la chômeuse, qui est un peu un personnage pivot. Mais oui, ça tourne autour des vaches. Pour moi, c'est... Si tu veux, elles ont été le fil conducteur pour l'écriture du roman. C'est elles qui m'ont porté.
Effectivement, il y a plusieurs personnages, il n'y a pas que des vaches. Mais si je te dis, Elsa, que pour moi, ce livre a été un hommage à la vie, à l'humanité, à la résistance et au plaisir de vivre, tu es d'accord avec cette analyse ?
Oui.
Donc effectivement, il n'y a pas que des vaches. Il y a une jeune chômeuse, Isabelle. Elle est fichée comme les vaches. Elle est rebelle aussi. Elle a des failles. Elle est hésitante. Elle est soumise à l'humiliation dégradante de ceux qui pensent qu'un chômeur est un resquilleur. Tu as rencontré des gens comme ça ? Qui t'ont permis d'illustrer ce qu'est Isabelle, l'Isabelle de ton roman ?
Moi, quand j'ai été, comme beaucoup de gens qui sont passés par Pôle emploi, anciennement la NPE, j'ai été confrontée à des personnes qui, de par leur position de domination, abusent de leur pouvoir. Et j'ai pu ressentir à certains moments un sentiment d'humiliation. Mais pour le livre, c'est vrai que je me suis inspirée beaucoup plutôt du discours des politiques et du patronat qui accusent justement les chômeurs d'être responsables de leur situation, qui cherchent à les culpabiliser, et puis au pire, qui en parlent comme si c'était des délinquants. Donc oui, il y a de quoi faire, hein. On peut s'inspirer de beaucoup de choses.
Il y a une autre personne intéressante dans ce livre, c'est la Loupiaque. La Loupiaque, qui pourrait être une personne qui pourrait représenter aussi bien le patronat, comme tu dis, vis-à-vis des chômeurs, mais qui aussi est coincée entre le patronat et les chômeurs, il me semble. La Loupiaque, pour ceux qui ne connaissent pas le livre et qui vont le découvrir, qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Alors, la Loupiaque, elle représente cette société qui n'envisage le monde que par le prisme économique. Donc, elle est instructrice à l'Agence gouvernementale du travail, qui s'occupe des sans-travail. Et où elle les reçoit selon un protocole très strict. Donc elle est vraiment dans un discours d'entreprise avec des notions d'efficacité, d'évaluation, de performance. Et c'est une parole technocratique et déshumanisée. Elle n'est pas coincée pour moi là-dedans. Elle s'y trouve très bien dans ce rôle de flic en quelque sorte. Hein. Elle adhère complètement à ça.
Ce qu'il y a de bien dans ce bouquin, c'est dans ce texte, c'est qu'on pourrait penser que c'est un récit de science-fiction,
puisque on ne connaît pas l'agence gouvernementale pour l'emploi, mais en fait c'est un texte très réel. Cette fiction nous renvoie au présent.
Complètement, oui. Mais on se rend compte que finalement, on en est presque là. Pour Isabelle Prieur, qui doit répondre au télé, se présenter déjà à l'agence gouvernementale du travail tous les jours, il n'y a pas longtemps, il y a Gattaz du MEDEF qui a dit qu'il faudrait contrôler, que le contrôle des chômeurs soit journalier.
Moi, je vais vous parler de la chasse aux chômeurs qui est officiellement ouverte depuis quelques jours.
Le garçon Guillaume Meurice sur France Inter, en octobre 2017.
Alors moi aussi, j'ai voulu tenter d'aller débusquer de la feignasse ce matin dans les rues de Paris et je vais vous dire que j'ai trouvé des pistes.
Écoutez, moi, je peux vous dire que je connais des gens, une jeune fille qui travaille 6 mois, elle se met au chômage et elle fait le tour du monde après.
Ça, c'est de la belle feignasse, hein, quand même, j'ai l'impression. Hein, entre deux boulots au flunch, la feignasse se prend pour Magellan. C'est bien connu de la feignasse, c'est typique, hein, ça. Alors, c'est celle que Pierre Gattaz propose de contrôler quotidiennement pour savoir si c'est de la feignasse de qualité.
BFM TV.
Que répondez-vous à Pierre Gattaz qui propose un contrôle journalier ou hebdomadaire des chômeurs?
Mais pourquoi pas le bracelet électronique, tant qu'on y est, hein, qu'en pensez-vous?
Donc on entend ça, voilà. Et là, j'ai trouvé, alors c'est un article du Monde diplomatique du mois de septembre, me semble-t-il, où il parle, qui s'intitule « L'enfer du miracle allemand », où dans les job centers, justement, les job centers allemands ont vraiment une démarche à peu près identique que dans celle du roman. Je cite « Nous fournissons aux employeurs un matériel humain bon marché ». Ça, c'est un collaborateur d'un job center berlinois et c'est une citation qui date de 2015. Donc, oui, ça renvoie à aujourd'hui, évidemment.
Dissonance
avec
Elsa Dauphin
sur Radio Centrafrique.
Il y a Isabelle, sans travail, humiliée, fliquée, harcelée par cette bonne femme qui veut que tout soit sous contrôle. Il y a cette agence gouvernementale qui ressemble à Pôle emploi, instrument de l'inhumanité que nous propose le MEDEF, les banques, Jupiter et ses amis les riches. Il y a ces passages, ces descriptions touchantes et très puissantes comme ce vieux qui meurt dans sa maison de retraite. Ces paysans qui luttent pour ne pas céder au désespoir, ou comme ces vaches qui racontent les abattoirs.
J'étais la première, la plus vieille. Bientôt, je mourrai de ma belle mort et mon cadavre ravira les vautours, dont parfois les ailes amples ombragent les cieux, avec l'élégance de danseurs langoureux et sur deux. J'allais le pas pesant, vers ce sinistre destin commun à celles et ceux de mon espèce. La peur rôdait comme un prédateur sournois. Un pas, un autre, avancé. Dans la file, mon échine alignée sur celle des autres. Ondulation lente et résignée des dos, nos arrière-trains et nos hauts chignons dessinant une petite houle de poils régulières. La porte ouverte plus loin. Une pénombre froide. Comme une plainte récurrente, le raclement des onglons sur le béton gris. Un long couloir aveugle, nos souffles inquiets. La lumière du jour bannie. Tremblement des membres grêles, sueur coulant sur le chanfrein. Notre odeur. J'ai su par les hommes, leur savoir comme des perles d'horreur. L'effroi. Le pistolet d'abattage sur nos fronts, crâne transpercé, conscience étourdie. Sensible encore, poreuse à la douleur. Hissé, pendu par une patte, le couteau qui égorge. Jugulaire et carotide sectionné. Le sang sombre qui s'écoule, le sang épais, roulant en un flot incessant. Nos grands yeux doux exorbités, nos lentes agonies. Nos silhouettes glissant sur des rails grinçants. Les mains des hommes aux gestes précis. Membres amputés, rouge grenat, corps dépecé. Rouge incarnat, flanc ouvert, rouge vermillon, entrailles extirpées, rouge pourpre, muscles cisaillés, rouge groseille, os mis à nu, blanc, viande débitée morceau par morceau, noir.
les vaches ont les couteaux sous la gorge, mais aussi le monde agricole. Tu évoques un moment le suicide des agriculteurs.
Oui, tout à fait. Oui, ben, je l'évoque parce que on en parle de temps à autre sans jamais chercher les causes de ce geste ultime que font ces personnes. Donc voilà, des fois on a un chiffre, tant d'agriculteurs se suicident par an, mais pas plus quoi, on n'en sait pas plus.
Ce matin, c'était Geoffroy. Le Geoffroy qui est mort en maison de retraite à plusieurs dizaines de kilomètres d'ici, sans revoir le village ni sa maison, où plus personne ne vit d'ailleurs. Une si belle maison. Les volets se détachent de leurs gonds tellement ils sont pourris. Et le jardin, tu verrais le jardin autour de la maison. Une vraie forêt vierge. Pas possible de discerner les roses des lilas, les iris des tulipes. Un foutoir de verdure avec du lierre qui envahit tout, qui a presque étouffé le grand tilleul juste devant le perron, tu sais, là où on prenait l'apéritif quand il nous invitait. C'était pas souvent, hein? C'est qu'il se l'a pété, le Geoffroy, mais bon. Et ses fruitiers, si tu voyais ses fruitiers, lui qui en était si fier. Les pêchers, les poiriers, les pommiers, tout ça c'est malade. À deux doigts de crever, ben, il est mort tout seul, le Geoffroy. C'est pas sûr, à mon avis, que ses enfants viennent pour l'enterrement. Avec Paul, son fils, tu sais, l'ingénieur qui est au Québec, et Marie, sa fille, qui vit en Amérique. Que les anciens qui suivront le cercueil, que nous, à coup sûr.
C'est pas tellement que c'était Noël. Ça fait longtemps qu'on n'y croit plus. C'est pas tellement qu'elles étaient belles, nos machines, mais elles n'y sont plus. C'est pas tellement que c'était Noël. C'est pas tellement qu'elles étaient belles. Dans les aciers au fond des mines, y'a de la poésie dans les usines. Dans les ateliers, dans les cantines, y'a de la poésie dans les usines. Dans le cambouis, dans la calamine, y'a de la poésie dans les usines. Dans les outils, dans les machines, y'a de la poésie dans les. C'est pas tellement pour le salaire. On peut pas dire que c'était Byzance. C'est pas ça qui nous rend amers. C'est plutôt qu'on avait confiance. C'est pas tellement pour le salaire. C'est pas ça qui nous rend amers. Dans les cantines, y'a de la poésie dans les usines. Dans le cambouis, dans la calamine, y'a de la poésie dans les usines. Dans les outils, dans les machines, y'a de la poésie dans les usines. C'est pas tellement que c'est un salaud, qu'il est parti comme un voleur, sans un regard et sans un mot. Mais on n'attendait pas des fleurs. C'est pas tellement que c'est un salaud, qu'il est parti sans un mot. Dans les aciéries au fond des mines, y'a de la poésie dans les usines. Dans les ateliers, dans les cantines, y'a de la poésie dans les usines. Dans le cambouis, dans la calamine, y'a de la poésie dans les. Dans les outils, dans les machines, y'a de la poésie dans les usines. C'est pas pour ça qu'on a pleuré et qu'on s'est serré dans les bras. C'est plus profond, c'est plus secret. C'est plus important que ça. C'est pas pour ça qu'on a pleuré
C'est plus profond, c'est plus secret. Dans les aciéries au fond des mines, y a de la poésie dans les usines. Dans les ateliers, dans les cantines, y a de la poésie dans les usines. Dans le cambouis, dans la calamine, y a de la poésie dans les usines. Dans les outils et dans les machines, y a de la poésie dans les usines. Dans les aciéries au fond des mines, y a de la poésie dans les.
Dissonance
avec
Elsa Dauphin
sur Radio Sainte-Afrique.
Il y a un objet, c'est l'objet de l'humiliation, c'est
le téléphone portable qui accompagne plein de gens. Et là, il se transforme en outil de surveillance. Là, c'est une sorte de bracelet électronique.
Il y a tout un côté d'humanité qui transparaît avec ces vaches dont on parlera un peu plus longuement tout à l'heure, avec Isabelle. Et il y a aussi avec deux personnages très, très touchants, Mémé et Pépé. Mémé Pâquerette et Pépé.
Pâquerette. Pépé et Mémé Pâquerette, qui sont deux vieux paysans en retraite. Et qui sont un peu au bord du monde, ils sont plus tout à fait, ils sont au bord du monde, du fait de leur âge, de leur environnement, et puis leur métier de paysan tel qu'ils l'ont pratiqué n'existe plus finalement. Et c'est vrai que la société ne les prend plus en considération, ils sont plus utiles. Donc la venue d'Isabelle, pour eux, c'est une bouffée d'oxygène, et en même temps, Isabelle trouve auprès d'eux une humanité rare, enfin, qui s'est perdu.
En fait, pour bien situer, Isabelle, cette sans travail, est envoyée, on va dire, en stage de réinsertion ou pour réapprendre les règles du travail chez ce couple de fermiers.
Voilà.
Elle est surveillée et fliquée par Madame Loupiac. Mmh. Chez ce couple de fermiers, il y a des vaches. Et puis, il y a un personnage qui apparaît, qui s'appelle Éric, un vétérinaire.
Mmh. Éric Lavergne, alors lui, il était médecin. Et à la suite d'un chagrin d'amour, il décide de tout quitter et il devient vétérinaire et il se retrouve dans ce lieu auprès de Pépé et Mébé Pâquerette, d'Isabelle et des vaches. C'est quelqu'un qui avait une vie parfaitement conventionnelle, qui se retrouvait très bien dans cette société ultra-productiviste, qui avait sa place et qui, en arrivant là, va découvrir finalement une autre façon d'envisager l'existence. Et le rapport entre lui et Isabelle va évoluer tout doucement. Alors c'est assez, subtil. Il n'y a pas de grande amitié merveilleuse ou d'histoire. Voilà. Mais petit à petit, tous ces personnages vont se rapprocher. Parce que finalement, chacun des personnages s'exprime à la première personne. Dire que l'histoire se tisse à travers la parole de chacun de ces personnages. Et à la fin, donc, il y a des jeux qui sont différenciés, je, J-E, et à la fin, ils vont former une communauté, et ce sera le nous qui prendra le dessus, les nous incluant les vaches.
Oui, parce que tout le monde parle à la première personne, mais les vaches, y compris.
Oui, ce sont des personnages à part entière. Ouais.
Est-ce que c'est facile de faire parler une vache ?
Moi, j'adore ça.
Allô, c'est la Noiraude. Je voudrais parler au vétérinaire.
N'inquiétez pas, je vous le passe.
Allô?
Bonjour, docteur. La Noiraude à l'appareil.
Bonjour, la Noiraude. Qu'est-ce qui ne va pas encore?
Docteur, mes cornes ramollissent.
Vos cornes ramollissent?
Ce qui était intéressant, c'était de trouver l'écriture, la forme pour les faire s'exprimer. J'ai essayé autant que faire se peut de singulariser un peu leurs paroles en allant plus vers la poésie.
Thank you. Attends voir que je te meugle ça tranquillement, le temps d'une dernière rumination dans le silence, dans l'espace libéré. Écoute, ça cause, ça jacasse, ça discute, ça déblatère et ça se tait, parfois. Et ça recommence. Ça parlote, ça plaisante, ça paraphrase, ça poétise, ça pète à l'occasion. Ça chie aussi, comme nous, mais en petit, du caca rikiki. Ça murmure, ça maudit, ça dit mots, ça débat, ça se bat, et ça ensemence la terre de cadavres démembrés. Ça babille, ça crie, ça vocalise, ça chante, des mots partout, sans dessus dessous, pour tout, pour rien, pour nous tuer, pour nous bouffer. Ça s'esclaffe, ça dicte, ça dialogue, ça trilogue, ça épilogue, et tiens, ça prologue aussi, et puis ça interroge. Et avec son entrecôte, qu'est-ce qu'elle prendra, la petite dame? Ça gueule, ça engueule, ça dégueule mot à mot, par phrases hachées, sanguinolentes, les noms qu'ils nous ont donnés. Collier, gîte, macreuse, ampe, bavette, faux filet, roast beef, pot-au-feu, rôti, à point, saignant, bleu, bien cuit, et puis.
La lumière s'estompe. La clarté en apesanteur ondoie vers la pénombre. Les oiseaux meurent-ils en vol foudroyé en plein ciel? Le vent m'apporte leur chant. Trilles qui se chevauchent, redoublent, se répètent, s'étreignent, s'éteignent. Itérative mélodie des hauteurs, une voix s'y mêle, une peau conciliante, ultime caresse. La douceur de l'arbre, la douceur du vent, la douceur du ciel.
Dissonance
avec
Elsa Dauphin
sur Radio Sainte-Afrique.
J'ai cherché le bonheur aux quatre coins du monde. J'ai cherché le bonheur au moins quelques secondes. Pour deux, trois cailloux blancs, un baiser dans le cou et caresser le vent qui me fouettait les joues. J'ai cherché le bonheur, mais pour toute rencontre, j'ai couronné mon cœur d'un barbelé de honte. C'est pas bon d'être une femme quand on n'est qu'un enfant, quand on n'a plus de larmes et déjà plus le temps. Plus le temps de grandir, déjà vendu d'avance, elles commencent à mourir le jour de leur naissance. Il faut être docile, on n'a que ce qu'on mérite, et surtout pas stérile, accident domestique. Quand on n'a plus de corps et pas plus de visage, mais quand on voit des morts dans tous les paysages, il n'y a plus d'ailleurs et plus rien de possible. J'ai cherché le bonheur, je reviens les mains vides, et je reviens de tout, mais je reviens debout, le cœur en miettes et les yeux secs. 30 ans que je dois faire avec. Je reviens demain, je reviens de loin, si tu veux bien. Un peu d'amour en poche, un peu comme l'eau vive, la fraîcheur et la force, la fringale de vivre. J'ai cherché sans limite une cachette à ma taille, un ruban de panique dans mes cheveux de paille. J'ai dansé vagabondé pieds nus sur le verre. J'ai eu peur de mon ombre et j'ai mal à la terre. Mais j'ai vu des bourrins devenir des bourreaux, et partout des gens bien, bien pires que des salauds. J'ai vu mes planquées dans un fond de tiroir, des mortes enterrées dans un trou de mémoire, et des femmes voilées pour plaire à Dieu sans doute, et des femmes violées sur le bord de la route. Des leçons de morale, des sermons, des discours, quand personne ne parle, un traître mot d'amour, et des vies qu'on enchaîne au fond d'un compte en banque. Oh non, c'est pas la peine, c'est pas la peine qui manque. Et je reviens de tout, mais je reviens de le cœur en miettes et les yeux secs, 30 ans que je dois faire avec. Je reviens demain, je reviens de loin, si tu veux bien. J'ai cherché le bonheur, j'ai du mal regarder. Il y aura des jours meilleurs, sinon ça se saurait. Mais chaque fois c'est pareil, je reviens me blottir et trouver le sommeil, aimer pour ne rien dire. Je reviens sans pudeur, et voilà mon visage. Je reviens sans rumeur, je reviens sans bagage. Et j'ai l'amour à vif et le cœur démodé, le bonheur maladif et je suis fatiguée. Je reviens si tu veux, je reviens s'il te plaît. Je reviens si tu peux encore tout inventer. S'il te reste l'audace de renverser les rôles, s'il me reste une place au bout de ton épaule. On refera le monde, mais le monde à l'envers, juste pour mieux confondre l'amour et la colère. Juste coûte que coûte, juste pour être ensemble et reprendre la route et ne jamais la rendre. Et je reviens de tout, mais je reviens debout, le cœur en miettes et les yeux secs, 30 ans que je dois faire avec. Je reviens demain, je reviens de loin, si tu veux bien, je reviens.
Dissonance
avec
Elsa Dauphin
sur Radio Sainte-Afrique. Il y a Blanchette, la charolaise anorexique, mais aussi Mademoiselle, la Primolstein, Zen, Ombrelle, Arthur le Taureau. Les vaches sont souvent assimilées à la passivité. Et c'est là le talent et l'imagination d'Elsa Dauphin, auteure de son dernier roman La Compagnie des Vaches, édité par les éditions du Larzac. Car de passives, elles vont devenir, tout en douceur et subtilité, actives à leur façon. Et les individualités du roman vont s'unir pour faire émerger une œuvre collective, une véritable œuvre de salubrité publique.
Et au milieu de ces vaches, il y a Arthur, le taureau, qui est quelqu'un d'important.
Oui, Arthur, oui, c'est un beau taureau. J'aime beaucoup les taureaux. Un beau taureau de race limousine. Ouais, Arthur... Je ne sais pas ce que je peux dire de plus.
Mais Arthur, il pourrait nous conduire à évoquer le chapitre de la résistance, quelque part. Parce qu'à un moment dans ce livre, tout le monde ne va pas être passif. Les agriculteurs, les vaches, Eric et Isabelle vont finir par trouver un moyen de dire non à ce qui les oppresse tous. Et pour moi, Arthur, il m'a fait penser, j'ai revu aussitôt le tableau de Guernica, de Picasso, Guernica, avec ce gros taureau au milieu. Et là, quelque part, il est en filigrane aussi, on le voit apparaître tout doucement, petit à petit, prendre de la place. Et à la fin, il joue un rôle prépondérant. Tu y as pensé à ce tableau en écrivant, en parlant d'Arthur, ou non? Pas du tout, tu as pensé à autre chose, à la chanson de Boris Vian?
Non, c'est venu après la chanson de Boris Vian. c'est venu... Je vais parler de la chanson de Boris Vian, du coup.
Oui, mais bien sûr.
Non, parce qu'à un moment, j'étais un peu bloquée et je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec Arthur ?
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fort riche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant
« Sa cloche, c'est pas où il est passé. »
Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé sans cœur?
Ben, je sais plus où se les foutu les mecs.
Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance.
Arthur ? Arthur, Arthur, où t'as mis le corps ? Bon. Et c'est comme ça que l'idée de l'action, qu'on va pas dévoiler non plus, non, est venue. Et alors Arthur, représentant symbole de la résistance, je sais pas, parce que moi je le voyais pas trop comme ça. Ce que chez Arthur, c'est surtout la colère qui domine. Et la colère n'est pas forcément synonyme de résistance. C'est le début, peut-être, oui. Mais voilà, il est en colère contre le sort qui lui est fait. Et à un moment, il n'en peut plus. Donc, et c'est presque... il va passer à l'acte, finalement. Mais d'une manière qui n'est pas réfléchie, on va dire. Hein. Moi, ce que j'aime chez Arthur... Il y a mon chat.
C'est important, le chat. Ça va, Sato.
Il est un peu brut de décoffrage, Arthur. Hein, voilà, il est un peu... il est grognon, il est en colère.
Pour toi, la résistance dans ce livre, elle démarre d'un coup de colère et après, elle s'organise.
Voilà. Oui, c'est un peu ça. Du coup, les personnages se retrouvent dans une situation particulière et ils se demandent ce qu'ils vont faire de ça. Et ils vont transformer cette situation à leur avantage. Et voilà. Je ne peux pas tellement en dire plus, c'est difficile. Non.
C'est un beau triptyque, là, avec la soumission de la jeune Isabelle, l'humiliation de Loupiac, qui font partie pour moi d'une même partie, l'humanité à découvrir avec les vaches, ce monde de campagne de ruralité que tu connais très bien. Et puis après, de cette humanité, va naître la résistance face à l'oppression et à l'humiliation. Comment tu as écrit ? Tu avais pensé déjà à ça au départ ou non ? Tu as avancé au fur et à mesure des pages ?
Non, moi j'avance au fur et à mesure des pages, je ne sais jamais vraiment où je vais. Sauf à un moment donné où, le chemin s'ouvre. Mais vraiment, oui, je te dis, au départ, il y a les vaches, et petit à petit, l'histoire se construit à partir de ça. Et l'idée générale du livre m'est venue au fur et à mesure. J'ai pas une idée bien précise dès le début. C'est ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est qu'on découvre des choses.
D'accord. Et après, sans dévoiler la fin, c'est le sauvage qui va être la clé de tout ça.
Je voudrais rappeler que l'homme est un animal aussi. On oublie souvent ça, on fait partie de la famille des primates. Et c'est vrai que notre vision du monde anthropocentrée, qui veut que l'homme est au-dessus de toutes les autres espèces, les domine et peut en faire ce qu'il veut, est très dangereuse. Et donc au niveau de l'esprit du livre, c'est effectivement ça. Ce sont deux conceptions du monde qui s'affrontent. L'une qui est purement économique, qui cherche à dominer et à marchandiser les êtres, qu'ils soient hommes ou vaches. Et l'autre qui intègre le vivant en son sein, voilà, la nature, la faune, la flore, et qui va prendre en considération le fait qu'il n'y a pas de séparation stricte entre l'espèce humaine et les autres espèces animales, et qu'on forme un tout. La vie humaine, elle est indéfectiblement liée à celle des animaux, des autres espèces animales. On partage le même monde. Et voilà, c'est un peu ça que je voulais mettre en valeur aussi. C'est que, et ça rejoint donc ta question, c'est-à-dire qu'il y a une humanité ou animalité qui se crée et qui débouche sur une vision du monde plus apaisée.
C'est un livre optimiste alors ?
Pour moi, oui. Mais bon, je ne sais pas si les lecteurs vont l'envisager comme ça. Mais oui, j'ai voulu une fin. Pour moi, elle est optimiste.
On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donne rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, ça tourne les enfants, ça tourne. Es-tu là?
Oui, d'accord.
Arthur, où t'as mis ton corps?
J'ai plus de corps, les gars.
Arthur, as-tu du cœur?
Balotte, les gars. Rebalotte et 10 de d'air.
Oh. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur.
Elsa Dauphin.
Sur Radio Saint-Afrique.
C'est un livre optimiste parce qu'aussi on n'en a pas parlé de l'objet, mais c'est un livre avec une belle couverture toute blanche, un titre en rouge, La Compagnie des Vaches sur fond blanc. Et puis au-dessus, il y a une magnifique peinture de Michel Juillard que nous entendrons tout à l'heure. Mais c'est pas qu'au-dessus, quoi. En fait, il y en a partout. Il y en a dans les rabats, des peintures de Michel. Il y en a petit à petit, elles apparaissent avec le livre, avec l'histoire, pour se faire de plus en plus importantes. Mais en fait, c'est une lecture à deux regards. Il y a les textes, il y a le texte, et puis le dessin ne gomme pas le texte, ne lui monte pas dessus, mais le dessin, au contraire, le souligne tendrement. D'où est venue cette idée de collaboration entre un artiste, Michel Juillard, un écrivain, Elsa Dauphin, pour faire un magnifique livre que tu appelles comment déjà
cette... Alors c'est un roman visuel. Donc l'idée vient de Corinne Soustiel, qui s'occupe des éditions du Larzac. Donc elle a appelé ça la collection roman visuel parce que, là, ce sont les peintures de Michel. Mais s'il y a d'autres romans qui sont publiés, ça pourrait être aussi avec des photos ou d'autres iconographies. Et moi, je trouve l'idée vraiment, vraiment intéressante, magnifique, c'est ambitieux aussi, dans un monde où tout doit être dématérialisé, et d'avoir cet objet, livre, qu'on peut regarder aussi, qu'on peut feuilleter au hasard, des pages pour s'attacher aux détails des peintures de Michel. Parce qu'il y a un gros travail là de Nicolas Claveau, qui est le graphiste, qui donc a découpé les peintures de Michel. On a pris des fragments qui, comme tu dis, accompagnent le livre, accompagnent le récit tout au long du livre. Et ça permet vraiment d'aller dans le détail. Parce que les peintures de Michel sont hyper détaillées. Et on découvre des choses. Enfin, moi, je continue à découvrir des choses grâce à cette façon d'exposer les peintures de Michel. Et ce que j'aime beaucoup dans les peintures de Michel aussi, c'est qu'elle vibre de vie avec son trait et son utilisation de la couleur. Et ça fait un bel objet, très vivant, très joyeux aussi, finalement. Enfin, je trouve, c'est... Et très poétique aussi.
Dissonance.
Sur Radio Saint-Afrique.
Ainsi parlait Didier Vampas, après avoir rencontré Antoinette, Bernadette et Josette, des triplés, tout le monde en aurait rêvé. Et effectivement, ce fut un rêve délicieux, fait de cupcakes à la fraise, au citron et à d'autres parfums inédits. Mon Dieu, c'était le paradis. J'ai pris quelques kilos pour les reperdre aussitôt. Je ne dormais pas la nuit, 6 bras, 3 bouches. Quand voulez-vous que je me couche? Taisez-moi, je vais encore dire des choses. Être chafouin et chanter de la prose. Taisez-moi, 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 taisez-moi. Ainsi parlait Didier Vampas au petit jeune qui venait lui demander des conseils, à ses anciens amis skinhead, cégétistes ou marxistes, à tous ceux dont il avait ouvert le crâne à coups de micro ou de guitare, surtout en Vendée ou en Bretagne, allez savoir pourquoi. À toutes ces filles qui lui avaient servi de planche à slam. Ainsi parlait Didier Vampas, la macrobiotique, la foi, un peu d'argent, les gens qui le regardent autrement. pouvait encore dire des choses, être chafouin et chanter de la prose. Taisez-moi, 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 par pitié, taisez-moi, taisez-moi. Ainsi parlait Didier Vampasse après avoir rencontré Antoinette, Bernadette et Josette. Et en plus c'est vrai, je me croyais à la place de Sainte-Ursule à faire l'album de la maturité. Pardon pour toutes ces mains écrasées et ces doigts cassés sur des barrières. Ainsi parlait Didier Vampasse, taisez-moi. Par pitié, taisez-moi, taisez-moi. Ainsi parlait Didier Vampasse. Taisez-moi, taisez-moi. Ainsi parlait.
Dans la fabrication de ce roman visuel, c'est aussi, comme dans le texte du récit, l'histoire d'individualités qui se mettent ensemble pour créer du collectif. Les éditions du Larzac ont permis la mise en forme de ce livre avec l'aide d'un graphiste, Nicolas Claveau, d'un photographe, Maurice Subervy, qui ont magnifiquement permis aux œuvres de l'artiste Michel Julliard d'accompagner les mots et le récit d'Elsa Dauphin. Un vrai travail d'orfèvre.
Michel, comment tu te définis par rapport à ce magnifique livre des éditions du Larzac, La Compagnie des Vaches ? Un illustrateur, un accompagnateur, un surligneur ?
Non, parce qu'en fait... Je prendrai pas le terme illustrateur parce que bon, j'ai rien contre l'illustration, c'est pas ça. Mais quand je travaille, j'ai travaillé un petit peu comme quand je travaille avec des poètes sur un livre. En général, je lis le texte une fois, deux fois, et puis j'oublie, et puis ensuite il y a des choses qui se déclenchent et donc je fabrique des images. Donc là, c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je travaille sur des toiles qui peuvent être de 20 cm sur 20 cm, comme de 40 cm ou d'un mètre sur un mètre, ou voire plus grande. Et puis, donc, j'ai pas de comment dire, j'ai pas un cadre précis de travail. Je suis libre et les images, bah, petit à petit, arrivent. Et puis, bon, à un moment, éventuellement, je relis de nouveau. Et d'autres choses arrivent, hein, c'est une phrase va m'amener quelque chose, etc. Et ce que j'essaye de faire, c'est de, plutôt que d'illustrer justement, c'est d'apporter autre chose au texte, c'est-à-dire une autre lecture en fait. Voilà. J'essaye d'apporter aux gens qui ensuite auront le livre en main, le liront, bah, une autre lecture. Voilà. Et donc pour ça, j'ai besoin aussi qu'un photographe professionnel, en l'occurrence il s'agit de Maurice Subervy, fasse les photos des peintures pour qu'on puisse, pour qu'ensuite un infographiste puisse travailler dessus. Et là, c'était le cas, voilà.
Ça a été quoi le déclic qui t'a donné envie de passer à l'accompagnement des mots d'Elsa ?
Alors, en fait, c'est la lecture de son premier roman, qui n'a rien à voir avec celui-là, d'ailleurs, parce que j'ai trouvé qu'elle avait une... Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs, à trouver qu'elle avait une très très belle écriture. Et donc, ça m'intéressait de participer à cette aventure. Hein. C'est une proposition qu'on m'a faite. Elle était d'accord hein, pour que ce soit moi qui travaille sur ce livre. Et oui, moi, j'étais très content de mettre des images sur ces mots. Quoi.
Et puis, c'est un récit qui te va bien, parce que c'est quand même une ode à la résistance, quelque part.
Oui, bah le thème, alors il y a plein de choses qui sont intéressantes dans son livre. Effectivement, il y a ce qu'on est très nombreux à avoir vécu, c'est-à-dire les relations avec Pôle emploi, qui ne s'appelle pas la Pôle emploi, on est un peu dans la fiction. Et puis le fait de faire parler les vaches, C'est vachement, ça rappelle, elle n'est pas la première, La Fontaine, et d'autres l'ont fait avant elle. Mais c'est vrai que c'est assez marrant, quoi. Puis il y a plein de choses, même sur l'art contemporain au départ, puisqu'il faut se rappeler, on l'oublie au fur et à mesure du livre, mais en fait, ce personnage qui est un grand patron d'entreprise, il ne sait pas quoi faire de son fric, et il achète plutôt de l'art contemporain. Et puis finalement, l'idée lui vient à un moment, on ne va pas raconter toute l'histoire, effectivement, de faire une collection de vaches, voilà. Il se lance là-dedans sans rien y connaître, et il balance un de ses employés là-dessus, quoi. Et donc c'est assez drôle, ça aussi. On voit bien qu'il y a un moment, les gens, ils ne savent plus où ils habitent, quoi. Parce qu'ils sont dans un système qui leur convient peut-être quelque part, mais qui les détruit aussi, quoi.
Et sinon, dans ton histoire, dans ton parcours d'artiste, est-ce que le mot te va, artiste ? Est-ce que dans ton parcours, c'est la première fois que tu fais comme ça un roman graphique ?
Oui, ça c'est une chance. Hein. C'est pas la première fois que je travaille de cette manière-là, parce que je le dis avec des poètes, je le fais. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps avec une amie qui est écrivain aussi, Jeanne Hervé, mais c'était plus de la poésie, même si on a travaillé un peu de la même manière. La différence, c'est que le copain infographiste ne s'est pas permis la liberté que celui de Montpellier s'est permis. Et ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve, au niveau travail, quoi. Il a été beaucoup plus loin. Moi, il m'apporte des choses, là. C'est ça qui est intéressant, ce découpage des images, etc. C'est super, ouais.
Et c'est quoi les choses que ça t'apporte ?
C'est une autre... Là aussi, c'est une vision de mon travail qui a été remanié, remixé par quelqu'un qui a un autre regard et une autre façon de fonctionner. Voilà, donc oui, c'est assez drôle. Ouais. Oui.
En tout cas, ça colle bien parce que le texte d'Elsa est écrit avec des mots. C'est vraiment un travail de perfection, très ciselé. Et tes dessins aussi, ce sont des dessins avec plein de petits détails et plusieurs niveaux de lecture.
Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, et puis bon, moi, c'est vrai que je travaille à la plume sergent-major, même quand c'est des très grands formats. Et que, bien sûr, ça se rapproche de l'écriture, quelque part. Pour moi, les peintures, c'est un peu souvent comme des grandes pages d'écriture. Donc, effectivement, il y a des choses communes, hein, là.
Est-ce que c'est un livre à message ?
J'aime pas trop ce terme. Ça me plaît pas.
Pourquoi ?
Après, oui, on peut en trouver un, évidemment, mais... Je ne l'ai pas vraiment écrit dans cet état d'esprit. L'idée, ce n'est pas de faire passer un message. C'est... Encore que j'en sais rien. C'est une bonne question, mais je ne sais pas répondre. Est-ce que... Ouais, je...
Non, c'est ton message à toi, mais il n'y a pas forcément un message. C'est ta vision des choses, ta vision du monde. Et après, soit les gens la partagent, soit la partagent pas. En tout cas, c'est un récit plein d'humanité. Très beau à lire. À voir,
regardez,
à savourer.
Ouais.
Non, c'est un livre que tout le monde devrait lire.
Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic au trousse, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant, et on se retrouve en plein, au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent dans la petite pièce du bas. Oui, oh, 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 oh. Arthur, où t'as mis le corps ? S'écriaient les inspecteurs.
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur, réfléchis, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort, je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, il n'y a plus de preuves, hein ? Hein, il n'y a plus de preuves.
On a écopé les ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheur.
Cette émission, que vous pouvez podcaster sur le site de Radio Sainte-Afrique, sera rediffusée le mardi 29 novembre à 14h et samedi 2 décembre à 16h. Vous trouverez sur le site de la radio les liens permettant de connaître les différentes dates de présentation du livre, ainsi que des infos vous permettant de vous le procurer.
HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes...
Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.
Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait. Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!